Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau Libre Propos. Libre Propos, c'est l'émission hebdomadaire de Radio Rancière qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque sur des sujets divers et variés. Il se trouve que la dernière fois, nous avons introduit une dimension interactive dans cette émission. Je vous ai demandé si vous aviez des questions à poser à notre évêque. Je vous ai donné mon adresse mail et eh bien, une question n'a pas tardé à arriver. C'est une question de Yves. On va commencer l'émission par cette question, Monseigneur, si vous le voulez bien. Quel bilan détaillé des visites pastorales dressez-vous depuis votre intronisation en Eure-et-Loire? Puis il y aura une deuxième question qui est sous-jacente. Pourquoi ne pas faire une visite pastorale dans le doyenné de Chartres?
Alors, question numéro une. D'abord, merci à cet auditeur, Yves, c'est ça, et bonjour Christophe. Peut-être qu'il faut quand même préciser pour les auditeurs de Radio Grand Ciel ce qu'est une visite pastorale. En fait, un évêque comme moi a mission de parcourir son territoire, donc pour moi c'est l'Eure-et-Loire, et d'aller dans les paroisses pour découvrir ce qui s'y passe. Donc souvent, j'en organise 4 ou 5 par an, il y a 23 paroisses, donc il faut 5 ans pour faire le tour, entre guillemets, où je passe du vendredi matin au lundi soir du temps à rencontrer les acteurs de la vie, bien sûr, ecclésiale, mais aussi la vie locale, économique, sociale. Par exemple, je vais aller voir des fermes, je vais aller voir des entreprises, je rencontre les élus et les maires, je rencontre des acteurs de l'entraide, de la solidarité sociale, tant des organismes catholiques comme le Secours catholique que d'autres organismes Restos du cœur ou autres qui sont civils, enfin qui sont aconfessionnels, pour un peu prendre la température de ce qui se vit. Moi, j'aime beaucoup écouter les acteurs qui sont sur le terrain parce qu'ils m'apprennent beaucoup de choses. En entreprise, j'ai vu beaucoup d'entreprises différentes en Eure-et-Loire, qui ont fait aussi bien de l'agricole que de la technique très très pointue. Enfin voilà, et ça me permet de garder ce contact avec le réel des gens, la vie des gens. Voilà. Et puis l'accueil est toujours sympathique, c'est un peu au pas de charge en général, on fait beaucoup de kilomètres et on fait beaucoup de choses. Et voilà. Pour moi, c'est toujours positif parce que les gens sont contents d'être visités par l'évêque. Moi, je suis heureux de les rencontrer. Ça évite d'avoir une pastorale hors sol qui ignorait un peu les réalités très, très matérielles, particulières. Je vois aussi au niveau de l'église ce qui se fait. Je découvre des talents, je découvre des gens qui m'emmènent voir, par exemple, en maison de retraite, les équipes d'aumônerie. Souvent, j'ai célébré des messes dans ces mêmes EHPAD. J'ai pu côtoyer des soignants. Voilà, donc des gens qui ont beaucoup de mérite, je trouve, à se donner par leur métier ou souvent bénévolement. Ça va continuer. C'est intéressant qu'on ait cette question parce que effectivement, j'en parlais pas plus tard qu'hier avec le vicaire général pour faire des rencontres, des conseils missionnaires paroissiaux et économiques de Chartres justement, pour voir un peu plus. Mais Chartres, je veux dire que j'y habite, donc je vois beaucoup de choses. Je circule quand même beaucoup dans les écoles où je vais volontiers. J'ai encore été ce matin à Mézières-en-Douai. Passer la matinée avec des enfants, des professeurs, voir ce qui se vit. Donc je suis assez proche, je pense, des gens, mais c'est une bonne question, on va continuer.
Alors, un sujet plus national, on va dire, voire même international d'ailleurs. La police est intervenue à la Gaîté Lyrique à Paris dernièrement pour évacuer des jeunes migrants qui l'occupaient depuis plusieurs mois. Cet événement met en lumière la grande complexité de la question des migrants. Il est évidemment bon et sain de cultiver le sens de l'hospitalité, mais aussi bien la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme l'avait dit en 89 déjà Michel Rocard, qui était premier ministre socialiste de François Mitterrand. Comment aborder ce genre de questions qui sont vraiment très épineuses?
C'est une question dont les solutions sont sûrement multifacettes. Mais d'abord, ça m'a interpellé parce que la Gaîté Lyrique, c'est entre le boulevard Sébastopol et la rue du Faubourg Saint-Martin, je crois. En tout cas, c'est à 100 mètres de l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Et j'étais curé là. Ouais. Donc je vois bien le bâtiment qui a été restauré. Il a fallu des années pour le restaurer et reproposer des spectacles, enfin de la culture dans ce lieu. savoir qu'il a été effectivement occupé depuis, je crois, décembre dernier par d'abord un petit collectif de migrants, puis jusqu'à 400 personnes, pose question. C'est-à-dire, d'abord, est-ce que c'est le lieu adapté? Moi, je pense que sûrement pas. Enfin, c'est pas un lieu préparé pour ça. J'imagine qu'il doit être en état, à mon avis, assez déplorable à la fin de cette occupation, au niveau des lieux, retour, voilà. Aucune illusion là-dessus. Les gens ont occupé le pavé, comme on dit. Ah, forcément, ils avaient sûrement des amis qui venaient, des associations assez engagées, militants, hein. Assez militants et politiquement. Je sais que j'ai entendu aussi une femme qui avait acheté un bar, restaurant à côté. Elle a dit mon affaire est actuellement ruinée. Je n'ai plus de clients. Les gens sont là, rentrent, sortent, occupent. Enfin, c'est.
Et je crois qu'elle a été menacée elle-même
aussi. Elle a été menacée bien de mort, la même femme. De mort, de viol, de mort. Donc c'est difficile pour elle, pour beaucoup de gens. Alors, de fait, moi, je pense que le migrant qui est là, il faut les moyens de s'en occuper. C'est un être humain. C'est quelqu'un qui a une histoire souvent difficile, compliquée. J'ai pu écouter quelques migrants ici même à Chartres. Au repas du Secours catholique, qui arrivait du Soudan, où j'ai travaillé au Sud-Soudan. Je connais un petit peu la vie des gens là-bas, ayant partagé cette vie quelques années, enfin un an, mais il y a quelques années. C'est très difficile, donc il faut respecter ces gens profondément. Je ne pense pas que c'est du respect que de laisser aux mains d'associations qui sont souvent très politisées et qui font leur jus et leur beurre avec cela, essayant d'avoir du buzz politique. Voilà. En plus, il y a des véritables réseaux internes qui sont mafieux. Je me souviens que quand j'étais à Saint-Laurent-Gare de l'Est, on avait beaucoup de migrants. Eh bien, pour les nuits, il y avait un lieu qui s'appelait la boulangerie. C'était une sorte d'ancien lieu industriel de pain, je crois. La boulangerie. Eh bien, il y avait des bus RATP qui, le soir, emmenaient ces migrants dormir là-bas à l'abri. Sauf que pour être dans le bus, il fallait montrer patte blanche à ceux qui faisaient monter dans les bus. Et qui faisait monter dans les bus les migrants? C'est en fait d'autres gens du même monde, migrants. Donc c'était un seul le seul de son clan, de son ethnie, ceux qui payaient le bakchiche sûrement, avaient le droit de rentrer. C'était un véritable truc de mafieux, quoi. Mais comme on ne savait pas que faire autrement, ben voilà, on amenait des bus et puis ils se débrouillaient pour gérer qui rentrait dans le bus et qui allait coucher là-bas. Donc c'est un monde obscur quand même, tout ça. Voilà, après ça, on voit bien aussi que là, on manque de moyens sûrement énormes, mais je ne pense pas que la solution était de laisser traîner l'affaire de ce théâtre. Moi, un ami prêtre a été curé à Lyon, son église a été occupée, s'appelle Saint-Nizier, par des migrants il y a quelques années maintenant. Il a accueilli ces gens quelques nuits, mais il a fait tout pour qu'on retrouve des solutions de remplacement, car ce n'était pas un lieu adapté. C'était ni pour ces migrants d'ailleurs, ni pour personne, et ni pour le culte et la liberté des chrétiens d'avoir le culte là. Mais il a bien fait les choses. Là, ça s'est un peu enquisté depuis des mois. Je pense qu'il faut trouver des solutions, sauf que la mairie de Paris dit qu'il n'est pas question dans notre approche de forcer les gens à partir. Mais enfin, c'est quand même un peu insensé qu'on laisse faire ça, je pense, tout en disant trouvons des solutions pérennes, mais ça, il faut de l'argent pour accompagner, et puis il faut aussi que ceux qui n'ont pas besoin d'être en France, ceux qui n'ont pas lieu d'être en France, puissent rentrer chez eux dans de bonnes conditions, à condition qu'on puisse les accueillir dans leur pays. L'exemple de l'Algérie, malheureusement, pose un problème de fond qui est loin d'être résolu.
Oui. Question épineuse, on le voit, très complexe.
Très complexe.
Le séminaire Notre-Dame de l'Espérance d'Orléans organise une journée portes ouvertes jeudi 3 avril de 16h30 à 22h. Ce n'est pas si souvent que cela arrive. Pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'assister à cet événement, est-ce que vous pouvez nous parler de la vie d'un séminariste? Comment s'organise-t-elle? Quelles sont les exigences de cette vie? Quelles sont aussi ses joies, hein? Comment on est accompagné? Comment on grandit?
Un séminariste, un homme qui se prépare à être prêtre. Donc on a des lieux qui sont assez différents suivant les séminaires. Il y a des séminaires qui sont des maisons de vie, où on est un certain nombre à partager une vie commune, une vie de prière d'abord, célébration liturgique, des temps d'échange, de rencontres, et parfois de service aussi dans les paroisses autour. Soit on a des cours sur place, donc il y a des enseignements au long de l'année sur place, soit on va en université, par exemple à Paris, ça peut être le cas de certains qui sont en maison résidentielle dans des paroisses, une dizaine d'hommes ensemble partageant ainsi le quotidien, et ils vont étudier soit au Bernardin, soit à la Cato, soit au centre Sèvres ou à d'autres encore. Donc c'est selon les lieux. Alors, souvent, ils ont plutôt 25-30 ans, parfois plus, des vocations tardives, de gens qui, après avoir travaillé, ce qui était mon cas d'ailleurs, moi j'avais travaillé 5 ans plus l'armée, rentrent au séminaire après, d'autres rentrent relativement tôt à 20 ans, sachant qu'en principe, on ne donne pas l'ordination sacerdotale à un homme de moins de 25 ans, c'est un peu la règle. Sauf exception. Donc, après, il faut des équipes pour animer. Je crois qu'en France, il y a 27 séminaires actuellement, me semble-t-il. Donc, qui accueillent peut-être 700 ou 800 séminaristes. Il faut mettre des équipes de qualité, pour, tant au niveau accompagnement qu'au niveau intellectuel. Peut-être qu'il faudra qu'on reconsidère un peu le maillage, sachant qu'il vaut mieux avoir une maison bien équipée, bien accompagné, avec un nombre suffisant de séminaristes, que des maisons un peu dispersées, petites, pour lesquelles il est moins facile de monter des équipes de qualité. Tout le monde n'est pas fait pour être, entre guillemets, en équipe de séminaire, ça dépend des compétences et des charismes.
Ouais. Alors, on l'a vu dernièrement que les églises recommencent à se remplir. Il y a eu ce rendez-vous incroyable à la cathédrale avec tous ces jeunes dernièrement dont on a parlé. Est-ce que ça influe sur les séminaires? Est-ce qu'il y a un peu plus de monde dans les séminaires ces dernières années?
Si cette jeunesse qui vient demander le baptême, puisque les baptêmes sont en plein boom, ou qui viennent à des célébrations comme les cendres, se confirme, si cela se confirme, au sens où aussi ça dure, effectivement, je pense que s'il y a un retour un jour sur les séminaires, c'est pas avant 5 ou 10 ans.
Oui. On peut s'y attendre quand même.
On peut s'y attendre. Maintenant, il y a une prudence. Par exemple, c'est un catéchumène, et j'en ai eu un récemment, un catéchumène désire être prêtre. On accueille volontiers avec sérieux sa demande. Il peut avoir un ressenti très fort pour cette vie-là. Mais on va attendre 5 ans après le baptême avant qu'il n'entre au séminaire pour lui donner la possibilité d'enraciner sa vie chrétienne dans un lieu d'église, avec à la fois une vie liturgique, une vie de service, tout en vivant dans le monde, c'est-à-dire pas déconnecté du monde, pour s'habituer, on pourrait dire, à être chrétien dans la vie de tous les jours. Ouais. Et si au bout de 5 ans, il confirme que son souhait est vraiment d'être au séminaire, eh bien, il sera accueilli.
Merci beaucoup, Monseigneur. On arrive au terme de cette émission. Chers auditeurs, auditrices, je vais vous redonner mon adresse mail. Si vous souhaitez réagir sur ce qui vient d'être dit, si vous souhaitez qu'on aborde de nouveaux sujets, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, vous m'écrivez à christophe.jubien, J-U-B-I-E-N, @wanadoo.fr. christophe.jubien@wanadoo.fr. À la semaine prochaine. Extensive.